L'amphi. L'amphi. L'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, nous parlons du séminaire du 11 avril sur les collaborations interdisciplinaires dans le projet européen SICOMOVE. Mais qu'est-ce à quoi, me demanderez-vous ? On en saura plus avec notre invitée du jour, Nathalie Richard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, puis nous passerons directement aux chroniques étudiantes avec Merlin. Salut Merlin.
Salut.
Et on enchaînera sur une chronique « Pourquoi lire ?» en 2024. Et on finira cette émission avec la chronique « Bien dans ses baskets » de Julie qui nous rejoindra tout à l'heure. C'est parti tout de suite pour notre invitée du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Nathalie Richard, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Mans, ainsi que la directrice scientifique du projet SICOMOVE. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, nous expliquer en quoi consiste ce projet ?
Oui, d'abord peut-être expliquer ce que veut dire SICOMOVE. C'est d'anglais, parce que le projet est un projet international, donc ça veut dire Scientific Collections on the Move, les collections de sciences en mouvement. Et le projet, en fait, aborde la question de la provenance des objets qui sont conservés actuellement dans nos musées de sciences.
D'accord.
Donc, il s'intéresse à la manière dont ces objets ont circulé depuis leur lieu d'origine jusqu'aux collections, aux pratiques de collecte, d'échange et de conditionnement qui ont rendu possible ces circulations.
Ok. Donc, c'est un projet d'envergure internationale, vous l'avez dit. Combien d'universités, en fait, sont incluses dans ce projet ?
Alors, il y a en fait en tout 16 partenaires issus de 10 pays en Europe et en Amérique latine. Donc, c'est un projet transcontinental.
D'accord.
Une partie seulement de ces partenaires sont des universités.
Ah, d'accord.
Une douzaine d'universités. Puisque la caractéristique de ce projet, c'est qu'il associe aussi des musées et des professionnels des musées.
D'accord.
Et donc, on a également dans le projet des musées. Donc ici, par exemple, les musées du Mans sont un des partenaires du projet. Le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, le Musée d'Histoire Naturelle de Barcelone, un musée d'Histoire Naturelle qui est en Argentine, le Musée de la Plata, un musée d'archéologie qui est en Suisse, le Laténium, et un jardin botanique en Belgique.
Mais alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu ? Parce que ce n'est pas forcément très clair de prime abord. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, l'étude des collections des musées et du déplacement de ces objets ? Qu'est-ce que ça apporte concrètement ?
Alors, en fait, beaucoup de choses. D'un côté, se centrer sur les collections de sciences, ça permet d'écrire une histoire des sciences un peu différente qui va s'intéresser aux traces matérielles laissées par certaines pratiques scientifiques, comme la collecte de spécimens, l'identification des spécimens, la classification des spécimens, et aussi les choix qui sont faits dans la manière dont ces spécimens sont montrés au public. Donc ça, c'est du côté de l'histoire des sciences.
Okay.
Pour les musées, ce que peuvent apporter les recherches qu'on réalise, c'est d'autres manières de raconter des histoires autour des objets qui sont dans les musées.
D'accord.
Donc, en fait, d'autres manières de présenter les objets au public. Et puis, du côté des scientifiques qui travaillent encore avec ces collections, puisqu'on a c'est un projet essentiellement d'historiens des sciences et des collections, mais il y a aussi des équipes de scientifiques dans le projet, notamment des paléontologues, des entomologistes, donc des spécialistes des insectes et des botanistes. Et eux travaillent avec les collections actuellement pour compléter les données qu'ils peuvent collecter par ailleurs. Et pour eux, il est souvent très important de savoir comment les collections ont été constituées,
d'accord,
à quel moment, dans quel lieu, par qui.
Donc en fait, il y a trois grands pôles d'acteurs, c'est-à-dire il y a les historiens, les scientifiques et les musées en fait.
Exactement.
D'accord, ça marche. Alors parmi les lignes directrices du projet SICOMOVE, il y a une concentration d'intérêt qui est déplacée des musées les plus importants vers de plus petits musées, des musées de la périphérie ou de la province. Pourquoi ce changement de prisme, en fait ?
Alors, on sait déjà beaucoup de choses sur les grands musées. Mmh. Et l'histoire globale que l'on raconte, c'est que ces grands musées seraient des sortes de centres de calcul vers lesquels convergeraient tous les spécimens et toutes les données. Et ce que nous, on souhaite montrer, c'est que la géographie de ces échanges de spécimens, de ces circulations de spécimens, est beaucoup plus complexe que cela, et que beaucoup d'échanges ne passent pas par les centres, que le musée de la Plata n'a pas forcément comme modèle et comme seul interlocuteur le British Museum à Londres ou le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, mais qu'il y a aussi beaucoup d'échanges de périphérie à périphérie, de province à province, de sud à sud, comme on dit parfois.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce projet SICOMOVE, c'est qu'il considère les collections moins comme, comme un héritage, une force de conservation, plutôt en fait comme un réseau de structures qui produisent de la connaissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut entendre par là ?
Oui, alors si je vous dis musée, je pense que vous penserez à une institution stable, permanente, qui conserve les objets. Pratiquement ad aeternam. En fait, un musée, c'est plutôt caractérisé par l'instabilité, par l'impermanence. Et c'est ce point sur lequel nous, on souhaite insister. Dans un objet, il y a des objets qui entrent, mais il y a aussi des objets qui sortent, beaucoup. Les collections sont en permanence réorganisées, déplacées. Les locaux changent, les projets changent. Les musées se spécialisent et se séparent. Ici, au Mans, par exemple, à l'origine, au début du 19e siècle, il y a un seul musée. Puis, au début du 20e siècle, les musées se spécialisent. Donc, le musée des Beaux-Arts, le musée d'archéologie et le musée de sciences naturelles. Et actuellement, le mouvement est inverse. Et le projet des, mouvements, des musées du Mans est actuellement de réunir à nouveau les collections. Donc, en fait, les musées, ils sont surtout caractérisés par le changement et par des choses qui entrent et... assez paradoxalement, ou en tout cas pas contre-intuitivement, beaucoup de choses sortent aussi des musées. Donc, par ailleurs, et c'est un deuxième point qui est important, les musées ou les collections, ce ne sont pas seulement des objets inanimés, mais aussi de très nombreux acteurs qui entrent en jeu pour collecter les spécimens, ensuite pour les identifier, les classer, pour choisir une manière de les exposer, mais également pour les préparer. Empailler un animal, c'est une compétence technique que tout le monde n'a pas. Monter un squelette de dinosaure, c'est une compétence technique que tout le monde n'a pas. Et donc, il y a aussi autour de ces musées de très nombreux acteurs qui circulent et qui échangent. Voilà. Donc, c'est surtout sur cet aspect-là des collections comme nœuds, en quelque sorte, d'échanges d'objets, de savoirs, de savoir-faire, et des lieux de rencontre et d'échange entre les individus. C'est surtout sur cet aspect-là qu'on veut insister.
Oui, c'est cette notion d'échange qui revient souvent, donc d'où peut-être l'attention particulière aux objets en déplacement et aux acteurs en déplacement, en fait.
Oui, exactement. Ça nous permet, en fait, d'entrer dans cette histoire en suivant une trace matérielle qui est l'objet et en essayant de reconstituer tout son parcours depuis l'endroit où il a été collecté ou découvert jusqu'à son arrivée dans une collection.
Alors, le projet regroupe plusieurs cas d'études, parmi lesquels l'herbier d'Eugène Monguillon au Musée Vert du Mans. Que fait le groupe SICOMOVE de ces différents cas d'études ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Certains cas d'études sont étudiés par une seule personne. D'autres sont étudiés collectivement. C'est le cas pour l'herbier Monguillon. En fait, les herbiers sont très intéressants parce que ils sont constitués à la fois par les collectes de la personne dont le nom est associé à l'herbier, mais aussi par de très nombreux échanges avec d'autres botanistes ou d'autres spécialistes des mêmes familles de plantes. Et c'est le cas pour l'herbier Monguillon. Et pour étudier cet herbier, ben, c'est particulièrement intéressant de faire venir au Mans des collègues de l'Institut botanique de Barcelone qui ont des planches d'herbier qui viennent de l'herbier Monguillon et également des collègues du musée botanique du jardin botanique de Meise en Belgique pour documenter.
D'accord.
C'est là aussi derrière un herbier, vous voyez, il y a tout un réseau d'acteurs sur lesquels on peut dire des choses supplémentaires quand on collabore à échelle interinstitutionnelle.
Et du coup, en fait, ces cas d'études, ils permettent de porter une réflexion sur des thèmes transversaux, c'est ça ? Alors, quels sont ces thèmes ?
Oui, donc des groupes de chercheurs ou des chercheurs individuels travaillent sur des études de cas on se réunit régulièrement pour discuter collectivement de questions qui traversent toutes ces études de cas. Donc, la question des amateurs et des professionnels, puisque beaucoup des collecteurs sur le terrain sont des amateurs dans la période qu'on étudie, j'ai oublié peut-être de dire que le projet se focalise sur le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle.
Oui, c'est important de le préciser, voilà. Effectivement.
Donc sur le terrain, on a des hommes, mais aussi des femmes qui collectent, qui ne sont pas des professionnels. Donc c'est intéressant de voir comment ils interagissent avec les professionnels dans les institutions. Il est aussi intéressant de se poser la question des réseaux qu'ils peuvent eux-mêmes mettre en œuvre pour acquérir des connaissances, pour accroître leur propre collection. Ces réseaux sont en général pas des réseaux scientifiques, mais par exemple des réseaux professionnels. Les médecins ont leur propre réseau, les ingénieurs ont leur propre réseau, évidemment les membres du clergé ont leur propre réseau, ces réseaux, ça peut être aussi des réseaux nationaux, par exemple les Français en Argentine qui vont être mobilisés par les institutions françaises, plus particulièrement pour échanger des ou chercher des spécimens. Donc c'est très intéressant de s'intéresser à cette question des acteurs par ce biais.
D'accord.
Il y a encore d'autres thèmes, un thème qui est plus économique, on va dire. On s'est intéressé à la dimension économique des collections, donc à la fois évidemment l'économie marchande, mais une grande partie de cette économie est une économie des échanges, du troc. On s'est intéressé aussi aux liens avec les sciences appliquées. Donc les collections qui sont par exemple en lien avec l'agronomie, ou les techniques de pêche, etc.
Alors, dans ce grand thème de l'économie, j'avais noté un petit détail, un sous-thème qui m'intéressait un peu, qui porte sur la fabrication de faux, de duplicata. Je me demandais, en fait, quel est l'intérêt scientifique de ces objets-là ?
Alors, il y a deux cas de figure, les faux et les copies, c'est pas tout à fait la même chose.
D'accord.
D'un côté, en fait, j'ai dit que beaucoup d'objets sortaient des musées, beaucoup de ces objets ne sont pas des spécimens originaux, mais des copies, d'accord, des reproductions. Donc, dès le 19e siècle, les grands musées ont des ateliers de moulage, y compris les musées scientifiques, et produisent des copies de certains de leurs spécimens, ce qui leur permet d'échanger avec d'autres institutions ou avec des collectionneurs. Dans ces musées, on a aussi des collections de doubles, des doublons, qui sont spécifiquement destinés aux échanges.
Ok. Voilà.
Et puis ensuite, il y a les faux.
Des doublons, c'est-à-dire des doublons qui ont été fabriqués
Non. Par exemple, au lieu de collecter, c'est exactement ce que font les botanistes qui font des herbiers. Au lieu de collecter une seule plante, vous allez en collecter 50.
Oui, okay.
Et puis, vous en gardez une et vous en échangez 49.
Ça marche, oui.
Voilà. Donc, on peut faire ça avec des animaux. On peut faire ça avec des plantes. On peut le faire avec des objets ethnographiques, des objets archéologiques. Quand on a une abondance en fait de ces objets. Alors ça, c'est pas tout à fait la même chose que les faux.
D'accord.
Ensuite, évidemment, je vous ai dit qu'il y avait une dimension économique, donc certains spécimens sont rares et du coup ont une valeur marchande importante, et donc il y a aussi une intense activité de fabrication de faux. Donc souvent ce sont des copies modernes mais présentées comme des originaux.
Et qui ne sont pas fabriqués par des acteurs des musées, du coup.
Non, qui sont fabriqués par des artisans efficaces, qui peuvent être parfois les mêmes auxquels on fait appel pour faire des copies pour les musées. Et puis, parfois, les faux sont vraiment des faux complets. Donc, il y a un cas assez célèbre dans les années 1880 à Paris, un marchand antiquaire spécialiste des antiquités et des objets ethnographiques d'Amérique latine, qu'on appelle pré-colombien, maintenant on dirait pré-hispanique, qui met sur le marché des crânes en cristal.
Ok.
Donc, soi-disant attribués aux civilisations pré-colombiennes d'Amérique latine. C'est un faux complet. Ce type d'objet n'existe pas dans l'archéologie pré-colombienne.
Je me demandais comment ça pouvait être possible, des crânes en cristal.
Alors, parce qu'il existe des crânes dans certaines pierres précieuses ou dans certaines matières précieuses. Mais des crânes en cristal, ça n'existe pas dans les sites archéologiques d'Amérique latine. Donc, tous ceux qui circulent sont des faux. Derrière, il y a aussi parfois des théories archéologiques alternatives, notamment une théorie alternative qui arrive assez tôt, dès le 19e siècle, vis-à-vis de ces civilisations avancées dont on ignorait tout pratiquement jusqu'au début du 19e siècle. C'est l'origine extraterrestre de ces civilisations.
D'accord.
Une idée qui revient régulièrement pour l'Égypte, pour l'Amérique latine.
Alors, un autre centre d'intérêt important du projet SICOMOVE, c'est la question des archives. Alors, quel rôle joue-t-elle en fait et en quoi ça consiste concrètement des archives de musée?
Alors, c'est important parce que les objets, ils ne parlent pas tout seuls. Mmh. Donc, parfois, sur les objets, il y a des informations qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin, par exemple des étiquettes ou des inscriptions manuscrites. Mais souvent, en fait, les objets, tout seuls, on ne peut pas en dire grand-chose. Mmh. Et du coup, pour pouvoir reconstituer ces déplacements et cette histoire des objets, il nous faut connecter des objets avec des archives. Mmh. Alors, ce n'est pas facile parce que les archives des musées n'ont pas été réellement conservées comme le sont les archives d'autres institutions. Dans D'accord. beaucoup de musées, ces archives n'ont pas été pendant longtemps une priorité. Ça le devient actuellement un peu plus, notamment parce que se pose la question de la provenance des objets, de la légitimité, des circonstances qui ont fait que les objets sont arrivés jusque dans les collections.
Ah oui.
Et donc les archives, ça dépend beaucoup des institutions. Dans certains musées, il y a tout un travail qui a été fait, il y a un service d'archives, les archives sont classées. Et puis dans d'autres cas, les archives, elles sont éparpillées un petit peu partout dans le musée, parfois dans un placard. Et puis ces archives, elles ont souvent été réorganisées. Et du coup, elles deviennent parfois difficiles à lire, et notamment réorganisées en fonction des expositions qui ont été organisées par le musée ultérieurement. Donc, pour essayer de constituer un peu de documentation sur les objets qu'on montre dans l'exposition, on prend des fragments d'archives un peu partout et on constitue une sorte de dossier d'exposition.
D'accord.
Et ça, pour nous, c'est terrible parce que, du coup, c'est pas toujours facile de remettre ces documents dans un ordre qui permet de raconter une histoire.
Alors, dans le cadre de ce projet, SICOMOVE, ont été organisés deux séminaires, le premier en Amérique latine et le second au Mans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux séminaires et pourquoi en Amérique latine, pourquoi au Mans?
Alors, en fait, il y a deux choses différentes. Dans le cadre du projet, on organise des journées d'études, des séminaires de recherche sur les thèmes transversaux qu'on a listés
D'accord.
tout à l'heure.
Ouais.
Et ça, il y en a eu plus de deux. On va organiser le septième en juin.
Alors, en quoi consistent les deux séminaires dont
Voilà. Et donc, ce dont vous parlez, je pense, ce sont des sortes d'écoles d'été qui sont destinées aux jeunes chercheurs du projet.
D'accord.
Un des aspects importants du projet, c'est d'intégrer des jeunes chercheurs, notamment des doctorants et des jeunes post-docs, pour les intégrer à ce réseau international et les former à ces problématiques d'histoire des collections et des musées. Et donc, les deux écoles d'été rassemblent les jeunes chercheurs du projet et sont des cours intensifs sur les thématiques du projet. Donc, le premier a lieu en Amérique latine pour faciliter l'accès aux jeunes chercheurs latino-américains. Et la seconde école d'été aura lieu au Mans à la fin du mois de mai.
D'accord, ça marche, merci. Alors, en tout cas, ce 11 avril, donc, il y aura un séminaire sur une journée sur les collaborations interdisciplinaires dans le projet européen SICOMOVE. Alors, ce projet, il est mis en avant sur son affiche promotionnelle par un curieux animal, un tatou qui renvoie, si je ne me trompe pas, un spécimen de la collection du Musée Vert. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce tatou? Pourquoi est-ce qu'il fait office, en quelque sorte, de mascotte pour ce séminaire?
Alors, parce que c'est bien un bon exemple d'objet en mouvement.
D'accord.
Donc le tatou, c'est un animal à carapace qui ressemble un peu à un pangolin. Peut-être que ce sera plus familier pour vos auditeurs.
C'est un mélange entre un pangolin et une tortue.
oui, un petit peu, voilà. Et c'est un animal qui n'existe que sur le continent américain, essentiellement en Amérique du Sud et en Amérique centrale, et puis un petit peu au sud des États-Unis. Et c'est un animal qui, dès la découverte des Amériques par Christophe Colomb, enfin, entre autres par Christophe Colomb, et a été considéré comme emblématique, comme représentatif de la nature américaine. Si vous regardez des représentations anciennes, soit des allégories de l'Amérique, soit des représentations de la nature américaine, si vous regardez bien, vous verrez un tatou quelque part.
D'accord. C'est passé du tatou à l'aigle. C'est...
voilà. Exactement. Donc cet animal, qui n'existait pas du tout sur le continent européen, a très vite fait l'objet de pratiques de collecte et de collection dans les collections qu'on appelait à l'époque des cabinets de curiosité. On est au 15e, 16e siècle. Donc ces animaux curieux qui ont aussi l'avantage, comme c'est une carapace, c'est assez facile Alors, on les ramène pas vivants, hein, oui, c'est assez facile à conserver et à transporter. Donc, du coup, presque toutes les collections, ça faisait partie des points forts d'une collection que d'avoir un tatou. Et si l'on regarde actuellement, dans presque toutes les collections de sciences naturelles qui ont des racines un peu anciennes, on trouve un tatou. C'est le cas au Mans. Donc, ce tatou vient d'une collection plus ancienne. Donc, il est arrivé dans les collections du musée du Mans au moment de la création du musée à la toute fin du 18e siècle, au début du 19e siècle. Mais il vient d'un cabinet de sciences naturelles antérieur, d'un érudit qui se passionnait pour les sciences naturelles qui s'appelait Molny.
Ça marche. Alors, quel sera l'objectif de ce séminaire du 11 avril, collaboration interdisciplinaire dans le projet européen SICOMOVE?
Et l'idée, c'est de développer un petit peu ce que, ici j'ai dit un petit peu rapidement, comment autour des collections on peut dialoguer entre spécialistes des sciences humaines, scientifiques issus des sciences de la nature et professionnels des musées.
Ça marche.
Et donc essayer de donner des exemples de cette interdisciplinarité en acte, en quelque sorte, dans ce projet.
Alors, quels seront les différents intervenants, j'imagine, qui sont représentatifs justement de cette diversité?
Alors, ce n'est pas très simple de rassembler tout le monde, donc on ne sera que deux.
D'accord.
Moi et la collègue argentine avec laquelle on a monté le projet.
Ok.
Mais évidemment, on rendra compte d'expériences très diverses au sein du projet.
Ça marche. C'est un séminaire qui s'inscrit dans le cycle thématique patrimoine, héritage et usage porté par Diagonale. Qu'est-ce que c'est Diagonale?
Alors Diagonale, c'est l'antenne au Mans de la Maison des sciences de l'homme, la MSH de la région Bretagne. Donc c'est une structure qui coordonne les activités de recherche des laboratoires de sciences humaines et sociales au Mans. Donc, c'est un lieu de rencontre et de discussion entre les différents laboratoires du Mans, donc les historiens, les géographes.
En fait, Diagonale, comme SICOMOVE.
Les juristes, les économistes, etc.
En fait, c'est un projet qui met en avant la pluridisciplinarité. En fait, c'est un enjeu majeur de la recherche aujourd'hui.
Alors, oui, c'est à la fois un enjeu majeur et puis un peu un mot fourre-tout. Qui n'est pas si facile que cela à mettre en œuvre la vraie interdisciplinarité. Mais effectivement, les instances qui coordonnent la recherche, les institutions comme le CNRS, l'Agence nationale de la recherche, insistent sur la nécessité de l'interdisciplinarité.
Et pourquoi c'est pas si facile à mettre en place?
Parce que parfois c'est très artificiel, c'est-à-dire que comme il en faut... beaucoup de projets en fait utilisent les sciences humaines et sociales un petit peu comme un alibi.
D'accord, oui.
Donc on va faire un projet de médecine fondamentale et puis comme il faut un petit peu de sciences humaines et sociales, on va mettre un petit volet soit sur la sociologie des patients, soit sur la psychologie, etc. Mais qui n'est pas du tout le cœur de la recherche. C'est pas toujours facile de travailler vraiment d'égal à égal sur un même objet en réelle situation d'interdisciplinarité.
Ça marche. Est-ce que c'est gratuit et libre à tous, ce séminaire du 11 avril?
Oui, bien sûr. Oui.
Merci beaucoup, Nathalie Richard, pour nous avoir parlé de SICOMOVE, un projet de recherche interdisciplinaire sur les collections des musées. Merci beaucoup. On fait une pause. Vous pouvez gagner des places pour Loïc Lantoine et The Very Big Experimental To Be Free Orchestra le 19 avril au Grand Théâtre des Quinconces, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Georges Brassens, Gastibelza.
Gastibelza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Doña Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le Mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille homograbine d'Antecara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir.
Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Merlin. Salut Merlin. Alors, comment ça va aujourd'hui?
Bah, ça va très bien, et toi?
Eh bah, super, de quoi tu nous parles?
Bah, aujourd'hui, j'hésitais sur le sujet de ma chronique de ce soir entre le flan et le cheesecake.
C'est vrai.
J'ai d'ailleurs donc fini par choisir.
Alors, qu'est-ce que tu as choisi?
Donc, ce soir, je vais parler non pas de une, mais bien de deux recettes, l'éclair au chocolat et le millefeuille.
Ok, d'accord, très bien.
Je rigole, bien sûr, on va parler du flan pâtissier et du cheesecake.
Waouh.
Donc, je commence tout de suite par le flan. Donc, le flan pâtissier est un dessert qui peut ressembler au pastel de nata. Désolé à tous les Portugais qui nous écoutent, mon accent est très mauvais. C'est donc une base crème plus ou moins pâtissière sur une pâte brisée. Le flan est un dessert traditionnel que l'on retrouve dans tous les coins du monde, au Portugal, en Grande-Bretagne ou même encore en Chine. Les plus anciennes traces de ce qui pourrait ressembler à un flan, viendraient d'Amiens et s'appelait la dariole et dateraient du XIIIe siècle. On trouve ensuite vers fin XIVe, début XVe siècle, des références à ce mets durant le règne d'Henri IV d'Angleterre. Celui-ci aurait été servi dans son banquet de couronnement en 1399. Aujourd'hui, le flan pâtissier est un dessert que l'on retrouve partout dans le monde, mais les recettes peuvent parfois varier. En effet, au Portugal, il y a beaucoup plus de sucre qu'en France, et en Chine, on utilise du lait concentré. La forme change aussi. Au Portugal et en Chine, il se mange en format individuel, et en Angleterre et en France, il se mange en tarte. Bref, vous l'aurez compris, le flan multiple sont les manières d'apprécier ce dessert. Bon, ceci dit, vous n'avez toujours pas la recette de cette douceur. Donc, pour faire un flan pâtissier pour 8, il vous faut une gousse de vanille, 90 g de maïzena, 150 g de sucre en poudre, une pâte brisée, 70 g de beurre, 1 litre de lait et 4 œufs. En premier lieu, faites bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue dans le sens de la longueur. Pendant ce temps, vous mélangez le sucre et la maïzena, vous rajoutez les œufs et vous battez bien afin d'avoir un mélange homogène. Vous ajoutez votre mélange et le beurre dans le lait bouillant, sans la gousse, puis vous faites cuire en remuant 1 à 2 minutes. Après avoir préchauffé votre four à 200 degrés, il vous faut beurrer un plat et y mettre votre pâte feuilletée. Vous y mettez votre mélange, vous lissez et vous enfournez pendant 30 à 40 minutes. Il faut qu'il y ait de petites alvéoles brunes sur le dessus du flan. Vous laissez refroidir et c'est prêt à être mangé, que dis-je? À être dégusté et apprécié à sa juste valeur. Bref, passons à la suite et à mon dessert préféré, le cheesecake. Donc le cheesecake est aussi un dessert, et un dessert au fromage, pas au roquefort je vous assure, et traditionnellement au citron sur un lit de biscuits, aux origines plus anciennes. En effet, on retrouve des traces de ce gâteau datant de l'Antiquité grecque. On donnait ces gâteaux en offrande aux dieux et pour également apporter de la force aux athlètes lors de tout premiers Jeux Olympiques à Olympie. Les Romains, après leur conquête de la Grèce, reprirent ce gâteau pour les mêmes utilisations. On sait tout ça grâce à de nombreux poètes et ouvrages comme, attention, mot compliqué, les Deipnosophistes, qui est un ouvrage culinaire où le poète Callimachus posséderait une recette de ces gâteaux. À cette époque, le gâteau est au fromage cuit ou dans une pâte. Et c'est pendant le premier millénaire que les Romains rendent populaire ce gâteau dans tout l'Empire, et ce jusqu'en Angleterre, en Scandinavie, jusqu'à arriver à New York et en Amérique au XVIIIe siècle, avec évidemment quelques modifications de recettes. En parlant de recettes, je vais vous livrer la recette du cheesecake pour 8. Attention, elle est un peu complexe. Pour la base, il vous faudra 125 g de beurre et 250 g de biscuits émiettés, petit beurre, spéculoos ou des trucs comme ça. Pour la garniture, il vous faudra une cuillère à café d'extrait de citron, 25 centilitres de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de farine, 150 g de sucre, 500 g de fromage blanc, de la faisselle ou du fromage frais comme le Philadelphie, ça va très bien, et 3 œufs. Premièrement, il vous faut préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, dans un plat de préférence avec des bords amovibles, vous y tapissez du papier sulfurisé. Ensuite, vous mélangez les biscuits et le beurre fondu que vous mettez au fond du moule en lissant bien. Réservez au frigo. Après, vous battez votre fromage blanc jusqu'à ce qu'il devienne bien lisse. Vous y ajoutez tous les ingrédients petit à petit et vous mélangez. Versez le mélange par-dessus votre base et vous enfournez pendant 50 à 55 minutes jusqu'à ce que le fromage soit ferme au toucher. Vous laissez refroidir, démouler et vous vous retrouvez avec un dessert succulent, citronné, crémeux et mousseux à la fois, avec une délicieuse base croustillante qui n'attend que d'être dégustée. Bref, j'espère vous avoir donné faim et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci beaucoup Merlin, et oui, tu m'as donné faim et tu ne m'as pas apporté ni de flan ni
ouais,
de
cheesecake. Je suis désolé.
Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta chronique. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places gratuites pour une séance au cinéaste en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Chaka Ponk, Run, Run, Run.
You gotta back up your stuff.
retour dans l'amphi pour une chronique Pourquoi lire en 2024.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
Quelle est la couleur des cauchemars ? Ces images fondues, mélangées entre elles, dans une débauche d'esquisses impossible à déchiffrer. Une violence qui nous extrait du sommeil, mais à laquelle on n'arrive pas à donner un visage. Les souvenirs qui nous en restent sont de pâles copies teintées d'incertitudes, qui ne rendent aucunement compte de l'horreur pure qui déchire la conscience jusqu'à l'évanouissement, la plongée d'un gouffre à l'autre, du rêve et de l'éveil. Il en est un cependant qui parvient à peindre la couleur des cauchemars. Alors même que son modèle n'était rien d'autre que le réel, qu'il épousait dans l'érotisme, la fête et l'alcool. Une fois n'est pas coutume, je vais aujourd'hui vous parler d'un peintre, à travers un livre néanmoins. Francis Bacon, ou La mesure de l'excès, par Yves Perret. J'en profite pour vous parler de mon amour pour les beaux livres, et celui-ci en est un. Grand format relié, qui alterne le texte noir sur blanc d'Yves Perret et les reproductions des meilleures peintures de Bacon. Le tout enveloppé dans un rhodoïde rouge, comme sa couleur de prédilection, le sang et la chair, rhodoïde derrière lequel apparaît en transparence son autoportrait le plus connu. Ce n'est pas un hasard si je me suis procuré ce livre. Je suis fasciné par la peinture de Francis Bacon. Lui et Samuel Beckett n'ont jamais échangé, à ma connaissance, pourtant ils auraient tant gagné à se rencontrer. Comment vous rendre à l'oral ce que produit la peinture de Francis Bacon alors qu'il s'agit de l'expression même de la peinture, l'ineffable ? Comment mettre en mots cette puissance qu'ont ces tableaux à capter le regard, à l'attirer dans le tourbillon de ces lignes de fuite incohérentes, de ces reliefs et de ces profondeurs qui se déforment, ces ombres qui se déportent, creusent mille et mille gouffres, et la chair nue, l'intérieur exposé, liquide, qui se fond dans la coulée d'un drap, dans les décors vides où s'est perdue la figure, car tout chez Bacon est décor, sujet éparpillé, étalé, flaque. Je reste parfois plusieurs minutes devant un même tableau à sentir monter la nausée, à perdre la notion de perspective, à plonger dans un visage à la fois déformé comme effacé maladroitement à la gomme, à la fois étrangement reconnaissable comme l'intuition se nourrit de tous les restes. Yves Perret, dans son livre, parle de Bacon comme d'un homme excentrique, dandy, plutôt joyeux, qui travaille de jour et festoie la nuit, qui traîne certes dans des fêtes bizarres mais qui somme toute est d'une excellente compagnie. Où se tapit donc toute cette noirceur, cette vomissure de l'existence que de 6h à midi, tous les jours, Bacon dégobie sur la toile. Visage étrange que celui de Bacon, boursouflé par endroits, creusé à d'autres. On dirait l'une de ces masses corporelles qu'il peint sur le lit, et ses autoportraits, aussi stylisés soient-ils, demeurent tout à fait reconnaissables. Je rapprochais tout à l'heure Bacon et Beckett, pour le traitement des corps d'abord. Le corps comme contrainte, dépendance clouée au décor, à la scène. Sujet évaporé dans la combustion, ne reste chez Bacon que la flaque de chair, chez Beckett, les ossements ou la momie. Chez l'un, le corps est un tas d'organes, chez l'autre, le corps est sans organes. Intérieur évadé chez l'un, intérieur évidé chez l'autre. Une différence majeure a priori. Le monde de Beckett est gris, sans substance, à l'arrêt, tandis que les peintures de Bacon exploitent les couleurs vives. Même ses œuvres les plus glauques le sont peut-être justement par cette vigueur visuelle inappropriée, la vie obscène, obstacle à une inanité paisible, et ainsi le noir total combat à travers la défiguration, la distorsion. Elle dépossède la peinture de sa puissance lumineuse, sa puissance de représentation, pour faire advenir quelque chose d'essentiel, de premier, qui surgit dans toute son uniformité. Bacon ne ment à personne, il ne cache rien, pas même la toile. Chez lui, le réel est plaqué sur la toile, support contaminé devenu porte, mais une porte fermée. Yves Perret n'essaye pas d'ouvrir cette porte. Le texte qui accompagne les peintures reste, somme toute, assez factuel. Il retrace le parcours du peintre, ses différentes périodes, et s'il se permet d'émettre un jugement esthétique sur les peintures de Bacon, ce n'est jamais qu'à titre personnel, comme il le souligne bien. Ce qui ne l'empêche pas d'émettre des remarques intéressantes sur le travail de Bacon, plus exactement sur sa façon de travailler, le choix de l'atelier, de la lumière, du titre, tout ce qui entoure la peinture, plus que la peinture elle-même. À ce titre, on peut retenir la remarque que fait Yves Perret sur les titres des œuvres. La plupart sont désignés par le terme d'étude, alors même que l'œuvre est a priori achevée. Mais chez Bacon, l'achevé n'existe pas, il n'y a que l'éternel mouvement, mais un mouvement figé, un abandon, un coup manqué. Échec de la tentative, et c'est l'échec qui fait œuvre. Et là encore, on rejoint Beckett. Rate, rate encore, rate mieux, écrit-il dans Cap au pire. Autre remarque sur les titres, il n'y a pas de personnages chez Bacon, seulement des figures. Là encore, on reste dans le vocabulaire de l'étude, de l'esquisse, du brouillon. C'est aussi que personnage, comme le souligne Yves Perret, contient trop de psychologie, alors qu'il s'agit davantage pour Bacon de corps, voire moins, de silhouettes, d'ombres, qui se mêlent au décor nu, au mur, au sol et au plafond, à l'unique plan de la toile, opaque comme une rétine. L'indifférence, voilà l'attitude de la peinture. Rien ne vaut, tout est là. Tous ces titres d'ailleurs sont moins des titres que des désignations utilitaires qui trouvent davantage leur place dans une conversation pour savoir de quoi on parle plutôt que sur les étiquettes d'un musée. La peinture ne peut souffrir un titre. Elle ne côtoie pas les mots. Bacon, quand il peint, se tient aussi loin qu'il peut de la littérature ou de la poésie. C'était pourtant un amoureux de l'art sous toutes ses formes, littérature comprise. Il fut marqué par Eschyle, par Conrad et Au cœur des ténèbres, et par Michel Léris, qu'il a beaucoup côtoyé avec Yves Perret, et dont je vous parlerai peut-être un jour. Dans un triptyque, Bacon prend comme sujet ses trois écrivains, ses trois œuvres. Mais à la fin, le sujet a disparu. Il n'y a plus que la peinture. Obscénité encore. Elle ne prend pas la place, elle est la place. La peinture est le lieu. Mais ce lieu bien délimité qu'est la toile, fenêtre découpée sur la surface de la quatrième dimension, qui n'est autre que les trois premières fusionnées dans une copulation muette et inerte. La toile de peinture, ou la mesure de l'excès, pour reprendre le titre d'Yves Perret. Quelle est la couleur des cauchemars? Jetez un œil sur la peinture de Francis Bacon, pour n'en pas sortir indemne. Bref, lisez, observez, rêvez ou ne rêvez plus, en 2024.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
Ich singe, bis der Tag erwacht.
De retour dans l'amphi pour la chronique Bien dans ses baskets de Julie. Salut Julie.
Salut.
Ben je t'en prie, on t'écoute.
Allez, on change d'univers, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Bon, ravie de vous retrouver dans cette chronique où j'aime vous parler de sophrologie, de relaxation, en tout cas de retour à soi. Mais je vais quand même faire le pont avec ta chronique, Charlie. Je voudrais bien parler d'un livre qui va ensuite nous faire aller dans une pause respiration. Ce livre, il s'appelle « Respirer la vie avec la sophrologie ». Il est écrit par Guylaine Manet. Il est absolument génial, même quand on ne connaît pas la sophro. Vous pouvez vraiment aller le lire en toute confiance. Il nous met vraiment bien dedans. Et Guylaine Manet dit dans son livre une phrase absolument merveilleuse qui dit « Respirer la vie, en tout cas, prendre une pause respiration, pardon, qui donne du prix à la vie. Et j'aimerais bien qu'on explore ça ensemble, si ça vous dit, de faire une petite pause respiration pour qu'on sente qu'au fond, cette pause, elle nous redonne du prix à la vie. Elle nous remet de la conscience dans le fait qu'on est bel et bien en vie. Alors, si vous êtes d'accord, je vous invite à trouver une posture confortable et agréable. En tout cas, si vous le pouvez, je le dis à chaque fois, mais si vous conduisez, restez dans la conduite et vous referez cette pratique une prochaine fois. Voilà, et puis une fois que vous êtes bien assis, je vous invite à fermer les yeux, vraiment en totale confiance, en totale sécurité. On est là ensemble quelques minutes. Et en même temps que vous fermez les yeux, je vous invite à prendre de bonnes respirations, de bonnes expirations, peut-être même des soupirs, peut-être même des bâillements. Ah, et sentir que sur chaque expire, vous pouvez libérer les tensions de la journée, tous les tracas aussi accumulés, tout ce qui a été peut-être trop dur ou trop lourd dernièrement. Et sentir que sur chaque expire, surtout, on revient dans une présence plus pleine, plus consciente à notre corps. C'est tout l'intérêt de la sophrologie, c'est de revenir dans une présence plus consciente de soi à travers le corps. Donc venez sentir peut-être vos pieds qui touchent le sol, venez sentir vos talons, vos orteils. Sentez aussi vos fessiers, le dos, la tête, et mettez du moelleux sur chaque expire pour que ce soit confortable, pour que ce soit agréable. Et ensemble, on va prendre une petite pause respiration, comme le dit Guylaine Manet, qui donne du prix à la vie. Pour cela, de façon très tranquille, je vous invite juste à venir sentir ce mouvement de votre inspire et de votre expire, vraiment sans jugement, sans se dire « oh là là, je respire mal », non, non, juste tel que ça se fait là, en vous. Et puis, on vient sentir l'air qui entre par nos narines, qui vient oxygéner nos poumons. Peut-être aussi sentir l'air qui ressort, plus chaud, plus doux. Et on se laisse juste guider par ce va-et-vient de l'inspire, de l'expire qui se fait en nous. Et vous pouvez inspirer par le nez. Vous pouvez expirer soit par le nez, soit par la bouche, comme c'est le plus évident pour vous, il n'y a rien à forcer. Et puis on va juste se dire intérieurement, j'inspire et je sens que j'inspire. Et j'expire, je sens que j'expire. Et on le fait encore une ou deux fois à notre rythme. J'inspire, je sens que j'inspire. J'expire, je sens que j'expire. Peut-être une fois encore, faites-le à votre rythme, vraiment sans forcer. Et tout en revenant à votre respiration naturelle, tranquille, je vous invite juste quelques instants à observer vos sensations, vos ressentis, même les plus subtils. Peut-être dans les épaules, peut-être dans le ventre, peut-être dans la tête. Peut-être simplement l'état intérieur, d'observer si ça se calme, si ça devient plus tranquille ou pas d'ailleurs, hein, c'est OK avec ça. On n'est pas là pour se juger. Et puis peut-être qu'on peut laisser venir un léger sourire intérieur juste pour se remercier de s'être offert cette exploration, cette petite parenthèse enchantée où on a pris le temps de respirer. Alors, tout délicatement, on va venir frotter nos mains l'une contre l'autre. On va réveiller un peu la chaleur intérieure. Et puis, on va pouvoir s'étirer comme un arc. Je vous invite à vous étirer jusqu'au bout de vos pieds, jusqu'au bout de vos mains. Respirez grand, respirez amplement. Ah,
remettez du souffle dans votre vie. Et puis, je vous invite à laisser les yeux se réouvrir, reprendre conscience de la pièce, de l'espace là où vous êtes. D'ailleurs, peut-être avec un nouveau regard après cette pause respiration. Bienvenue et belle soirée.
Merci Julie pour ta chronique sophro qui nous fait du bien comme chaque fois.
Avec plaisir.
Et merci d'avoir suivi l'Amphi. On se retrouve ce jeudi 4 avril pour parler de la représentation de Don Juan, mise en scène par David Bobet, qui passe au Quinconce le 10 et 11 avril. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.